Les soyeux du dimanche.
C'est quoi un soyeux ?
Les soyeux du dimanche.
Un fainéant.
Quelqu'un de joyeux ?
Soyeux, terme picard et wallon, signifiant fouteur de merde, empêcheur de tourner en rond.
Bonjour à tous, aujourd'hui en ce 26 janvier 2025, c'est la 10e émission de LSD, les soyeux du dimanche. Aujourd'hui on va entendre deux gros dossiers, un gros dossier et un coup de gueule. Le gros dossier a été concocté par Christian de Meulemeester, qu'on salue au passage puisqu'il est absent du studio. Et le coup de gueule a été réalisé par Luc. Bonjour Olivia, bonjour Martine, bonjour Luc.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour auditrice sur le web, sur le DAB et sur le 87.7.
Et vraiment ce générique, il est très bien.
Mais c'est vrai Martine, on est bien d'accord. Et donc on commençait, il me semble, avec une première musique de Martine.
Non, pas de Martine, de Noah Moon, qui va interpréter Run. Alors Noah Moon, de son vrai nom Manon de Carvalho Cumans, est une chanteuse et une compositrice née à Alsenberg, pas très loin d'ici donc. Ses premiers pas, elle les a fait avec une musique pour une pub autour de l'eau de spa. Ici, son titre Run provient d'un single de 2014.
C'est donc parti. Dans quelques secondes, le temps de les appeler à Alsenberg.
I was staying locked in my room where illusions and sorrow loom, and I realized all the mess I made with my laziness. My wait is long, I need a time to know what's wrong. And in my head it's always ticking, in my head it's always ticking. Run, run, every day, if you don't want your dreams to run away. Oh, run, run, every day, if you don't want your dreams just to run away. My visions get more pink. I forget time, but I do mind. The more I sleep, the more I creep. And I must run, run every day if I don't want my dreams to run away. Oh, run, run every day if you don't want your dreams just to run away. Forget my demons and my doubts. I jump up high, build up speed. If I walk, I won't get what I need. And I must run, run every day if I don't want my dreams to run away. Oh, run, run every day if you don't want your dreams just to run away.
Donc voilà, nous venons d'écouter un super morceau de Noah Moon. J'espère qu'il vous a tous plu.
Luc, tu voulais présenter le suivant ?
Mais tout à fait, peut-être parce que c'est un morceau que j'ai amené dans ma sacoche et que c'est un morceau qu'on n'entend quand même pas très souvent. En tout cas, un style de musique, c'est du gospel. Vous me direz, on est dimanche matin, il est vers 11h. Un gospel, ça peut jamais faire de tort.
C'est bien, c'est l'heure de la messe protestante.
Pas spécialement.
Pas spécialement.
Et soyez attentifs parce que c'est une version vinyle et ça s'entend.
Et quoi?
Et ça s'entend.
Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Oui. C'est moi qui n'entendais pas en fait là. Et donc c'est un gospel, un classique de chez classique, hein, qu'on entend plus jamais maintenant, avec l'orchestre des Edwin Hawkins Singers. C'est un original, donc c'est cet orchestre qui a joué ce morceau, qui s'appelle Oh Happy Days, aux jours heureux. Et c'est la version originale qui a été enregistrée à Berkeley, en Californie, en 68, toute une époque. Et attention, c'est la version vinyle. C'est-à-dire qu'après une minute, c'était juste pour pas... on vous raconte pas des histoires, hein, c'est bien vinyle, vous aurez un saut d'aiguille. Voilà, ça peut pas se faire autrement qu'avec une vraie aiguille. Et donc c'est parti pour Edwin Hawkins Singers au Happy Day.
Happy day. like to carry on now with a newer song? I think it's on the new album over here, and it's a song called Things We Said Today. If I have to go, you'll be thinking of, somehow I will know, someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away. We said today, we said you'd be mine till the end of time. These days such a kind seems so hard to find. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say. Then we will remember things we said today.
Et voilà, on restait quand même dans les mêmes années, hein, comme quoi il y a une continuité à Air Libre. On ose tout, hein, un Beatles après du gospel. Donc là, on a quand même écouté aussi Things We Said Today. Ça, c'est du pur Paul McCartney, qui a été enregistré en 64, mais qui est chanté ensemble avec George Harrison sur une superbe harmonie. Ce morceau est assez connu pour ça. Là, c'est la version Hollywood Bowl à Los Angeles et présenté par John Lennon dans l'introduction. C'est quand même un morceau qui déménage. C'est un super grand classique aussi dans les concerts de McCartney. Et c'est une superbe harmonie. Voilà.
Moi, je trouve ça plutôt cool comme... Moi, je trouve plutôt cool comme morceau, mais bon.
Oui, c'était un très chouette morceau. En tout cas, maintenant, nous passons au dossier que Christian nous a préparé sur Audi.
Et maintenant, les dossiers de LSD, les soyeux du dimanche.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, regard sur deux personnes qui travaillent dans une entreprise pas loin du studio de Radio Air Libre à Forêt. Vous aurez deviné qu'il s'agit d'Audi Brussels, tristement d'actualité, puisque de nombreux travailleurs vont perdre leur emploi. Audi Forêt, c'est 3000 salariés, sans compter de nombreux sous-traitants qui seront aussi touchés par la fin de la production, programmée le 28 février 2025. Cette date a été annoncée lors d'un CE extraordinaire le mardi 29 octobre 2024. Pendant des semaines, syndicats et travailleurs ont vécu au rythme des CE extraordinaires et des repreneurs hypothétiques que l'on faisait miroiter. Même en regardant la situation de l'extérieur, on se disait que c'était foutu et que l'on se moquait du monde. Surtout quand on apprend que VOE, la maison mère d'Audi, envisage la fermeture en Allemagne de 3 usines avec à la clé malheureusement des dizaines de milliers d'emplois perdus. Aujourd'hui, en fait, ce ne seront pas des regards économiques, financiers, juridiques, syndicaux, patronaux qui vous seront proposés, mais les témoignages de deux travailleurs. J'ai envie de leur donner la parole pour qu'ils vous fassent part de leur vécu professionnel et social, mais aussi de leurs impressions par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, comme des centaines d'autres personnes. Voici l'avis de
Olivier
et de
Michael.
Au nom de Radio Air Libre et de l'émission mensuelle Les Soyeux du Dimanche, bienvenue et merci de nous accorder cette interview. Olivier, tu as quel âge et depuis combien de temps travailles-tu à Forêt ?
J'ai 57 ans et je travaille à Forêt depuis 36 ans. Je suis rentré en septembre 88. Ouais.
Tu avais quel âge à ce moment-là ?
21 ans. Ouais.
Ok. Michael, tu as quel âge et depuis combien de temps travailles-tu à Forêt ?
Donc, moi, j'ai 48 ans et je travaille depuis 27 ans au Diboussel, comme Olivier. Je suis rentré à 21 ans aussi.
Tu as fait d'autres postes avant d'arriver à Audi ou...
Non, en fait, je suis sorti de l'école ici à Bosco, donc déjà en mécanique automobile. Puis j'ai fait une spécialisation. Je voulais d'abord essayer expert automobile. Donc ça, j'ai fait un an. Comme je n'aimais pas, j'ai arrêté. Puis j'ai fait encore une spécialisation en carrosserie. Et après, je suis rentré directement à l'usine. En fait.
Alors, justement, quel est ton parcours professionnel chez Audi, Michael ?
En fait, il faut savoir comment ça fonctionne l'usine. Donc, on a trois gros départements. Donc, un département tôlerie, là où ils assemblent la carrosserie. Puis, ça part en peinture. Donc, là où il y a tout le traitement de la carrosserie, puis de la teinte finale. Et ensuite, il y a le montage. Donc, là où on monte tout le reste de la voiture, le moteur, l'intérieur. Et donc, moi, j'ai commencé au montage pendant plus ou moins 9 ans, jusque la séparation, enfin, la transformation de VW en Audi. Ensuite, là, j'étais 9-10 ans en peinture. Et puis maintenant, il y a un nouveau département qui s'est ouvert, c'est les batteries, depuis 9 ans. Et donc là, je suis aux batteries depuis 9 ans.
Ok. Olivier ?
Moi, j'ai toujours été en peinture. J'ai peint les voitures pendant 18 ans, hein, toute la période de VW. Et puis, quand Audi a repris, ça a été fortement robotisé. Et je fais dans les réparations des voitures abîmées avant de repartir en cabine de peinture.
Les cabines de peinture, ça doit être très, très polluant, ça, non ?
Les cabines de peinture, maintenant, sont normes. Hein, la peinture est à l'eau. Et ils ont évolué aussi. Hein. Il n'y a plus les solvants comme à l'époque quand on a commencé.
Mm-hmm. Ok, alors bon, désolé de vous dire que, enfin vous le savez beaucoup mieux que moi, l'usine va fermer. Alors, quel est votre sentiment ? On a l'impression d'avoir été... Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trompé, d'avoir bêtement espéré que la situation allait s'améliorer ? Le sentiment d'un gâchis peut-être, ou voire même plus d'un gâchis énorme, Olivier ?
Oui, parce que, avec le temps, quand on faisait une voiture thermique, pour nous, il n'y avait pas de problème. À partir du moment où on est parti à l'électrique, on a senti que ça n'allait pas. Dans les débuts, on y croyait, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que rien ne pouvait fonctionner à l'électrique. Il y a l'infrastructure, de toute façon, du pays ou n'importe où, ça ne fonctionne pas. Le prix de la voiture, est énorme. C'est pas une voiture pour monsieur tout le monde. Et de toute façon, au fil du temps, nous, on se rendait compte que les ventes des voitures diminuaient. Voilà, cette voiture électrique nous a mis dedans. En gros...
C'est un gâchis ?
C'est un gâchis, oui. Si on avait continué en thermique, pour moi, ça aurait été sans problème. Mais la voiture électrique, elle a mis l'usine KO.
Et quoi, c'est... La direction qui a pris la décision de vous imposer l'électrique ?
Ah oui, hein, nous, quand on était avec l'Audi 1, ça fonctionnait super bien. Bon, l'avenir nous proposait l'électrique, on se dit, on peut y croire. On se dit, oui, pourquoi pas. Mais dans la réalité, ça ne peut pas marcher. L'électrique fonctionne pour les gens qui peuvent déduire, contributions, les sociétés, mais pas pour monsieur tout le monde. Il y a des personnes qui vont utiliser l'électrique, mais l'électrique en deuxième voiture. Une petite voiture, quelqu'un qui fait des petits parcours, qui va en ville. Mais dans...
Bah, il faut déjà avoir une villa pour connecter sa voiture électrique, parce que bon...
Mais Maison Fontarune... Oui, c'est pas... ça, quoi. Tout à fait. Mais voilà, c'est quand on parle d'infrastructure, bah oui, les Maisons Fontarune ne peuvent déjà pas mettre une rallonge pour... Puis bon, il faut des panneaux solaires, il faut que justement le câble ne passe pas sur la route. Il faut plein de choses pour que l'électrique fonctionne. Mais on les a pas.
Au café du temps perdu, je suis retourné. Un jour où rien n'allait plus, j'avais peur d'être déçu. Mais rien n'avait changé. Bonsoir, ami, bienvenue.
La patronne m'a reconnu, malgré mon costume de notable. Et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Au café du temps perdu, j'allais quand j'étais riche. De tout c'est rien dont on se fiche, quand on a pignon sur rue. Au café du temps perdu, j'allais
retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu.
Je l'aimais ce temps perdu, cette liberté, ce trésor, ce luxe absolu.
Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus.
Alors à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Et ce soir avec les rêveurs, nous allons chanter à tue-tête.
Au café du temps perdu, j'allais quand j'étais riche.
De tout c'est rien dont on se fiche, quand on a pignon sur rue.
Au café
Michael, c'est un gâchis, c'est un échec.
Le sentiment, moi, je crois que c'est vraiment l'écœurement, en fait.
Écœuré.
Oui. C'est complètement écœuré, en fait. On a, comment dit, si on est rentré là, que ce soit Olivier ou moi, c'était par passion d'abord pour la voiture et pour la marque en général, même VW du temps, déjà des coccinelles, les Golf 1 GTI, Golf 2 GTI. Moi, j'étais rentré pour ça, en fait, par passion. Et c'est vrai qu'on a mis du cœur pour travailler, on ne va pas là juste pour l'argent, mais ouais, c'est du gâchis. Surtout qu'à chaque fois, on a quand même sorti 8 millions de voitures de cette usine. Depuis ouais. temps qu'elle existe, il y a d'ailleurs un grand panneau de l'usine. Non, sur, non, depuis tant que c'est 8 millions de voitures
d'accord,
qui sont sorties,
d'accord,
c'est énorme.
D'accord.
Depuis Dieter
Renéton. Ouais,
c'est énorme. Donc à chaque fois, on a relevé tous les défis.
Oui, c'était une passion. Hein. C'était un nom, c'est une fierté. Quand on est rentré là, on a toujours été fiers. On a tous, en gros, roulé en Volkswagen. Avant de rentrer là, moi je suis rentré, c'était la Golf 2. Ben, la Golf 2, on l'a mis en peinture. Maintenant, c'est des ancêtres. Maintenant, on les recherche pour. Ça a toujours été une passion, une fierté hein, de travailler pour Volkswagen.
Ok, pourtant, vous habitez la région de Tournai, alors c'est pas évident. Michael ?
C'était un choix, on le savait depuis le départ, hein, donc comme je dis, c'était une passion, donc c'est pas ça avant tout. En plus, on fait des équipes, donc de 6h au matin et l'après-midi c'est 14h. Mais je savais très bien que si je devais prendre un rendez-vous pour quelque chose un an à l'avance, je savais très bien si je devais prendre rendez-vous du matin ou de l'après-midi en fonction des équipes. Donc ça, c'était quand même une stabilité.
Ça, c'était stable.
C'est une stabilité. Ça a ses inconvénients, mais ça a ses avantages aussi
d'un autre point de vue. D'accord. Et toi, Olivier ?
Il y a le côté aussi financier. À l'époque, quand on voulait un salaire décent par rapport à dans la région, ça valait la peine de travailler chez Volkswagen en faisant les postes. Et à l'époque, si on rentrait dans un petit garage où on avait 500 euros de différence entre un travail de mécanicien ou carrossier dans un garage de la région et d'aller travailler à l'usine.
Tiens, Olivier, tu as choisi d'aller travailler à Forêt ou tu n'avais pas le choix à l'époque ?
L'opportunité faisait qu'ils engageaient. Dans ma rue, il y avait 7 personnes qui travaillaient chez Volkswagen. Un des voisins m'a ramené une fiche d'embauche. J'ai rempli la fiche d'embauche. La semaine d'après, j'étais engagé.
Et toi, Michael ?
Moi aussi, plusieurs personnes, dont un voisin qui travaillait chez VW, comme j'étais déjà passionné par les Golf à l'époque, Golf 2, m'avait proposé d'aller, tiens, on engage à VW, ça t'intéresserait pas. Et là, moi, j'y croyais pas, en fait. J'ai dit, non. Et j'ai postulé, c'était très très vite, quoi, en quelques semaines.
Ok. Et donc, vous saviez que vous vous engagiez dans une structure de travail à la chaîne ? Le travail à la chaîne, il fonctionne encore maintenant ou quoi, Olivier ?
Oui, bien sûr qu'il fonctionne. C'est que du travail à la chaîne. Hein. La voiture passe devant.
Malgré les événements, ça fonctionne encore ou...
Ici, maintenant ?
Oui.
Ah non, il n'y a plus rien qui fonctionne maintenant. Hein. Dans l'état d'esprit, de maintenant, non, maintenant c'est fini. Plus personne n'a la motivation de travailler pour l'usine, on n'a plus envie. On nous a coupé l'herbe sous le pied, c'est fini. On veut plus travailler. C'est fini. Même si l'usine est encore ouverte, il n'y a plus aucune motivation. Que les événements, les sous-traitants qui sont aussi impliqués comme nous dans la fermeture, eux font les blocages et automatiquement, toute l'usine est bloquée. La chaîne est coupée.
Et vous ne recevez plus de pièces, donc ?
On reçoit plus de pièces parce que automatiquement les sous-traitants qui sont aussi impliqués dans cette fermeture n'ont plus de travail, eux ne fournissent plus de pièces et automatiquement si on n'a plus de pièces on ne sait plus monter les voitures et une chaîne où il y a une coupure, une chaîne s'arrête.
Et que disent les patrons, Michael ?
Oh, alors là c'est un gros problème. Enfin, il faut savoir deux choses. Je crois que les gens comprennent le fait que l'usine ferme, c'est pas une décision de Bruxelles, c'est une décision d'Allemagne. Donc là-dessus, je crois qu'on ne saurait rien faire. Maintenant, au niveau... Ce qu'on attend surtout, c'est le plan social, en fait. Et c'est là que ça traîne et il y a du mépris de la part de la direction. Une nouvelle direction, ça, je vais dire aussi, qui vient d'arriver juste pour la fermeture. Donc c'est un jeune directeur qui vient juste pour essayer de donner le moins possible. Ça, on le ressent ainsi. Donc il y a déjà du mépris vis-à-vis des travailleurs même.
Mépris, ça, de quelle façon, par exemple ?
Le fait de ne pas répondre aux questions, de donner un plan social très, très très faible, en fait. Il parlait sur 2500 euros par mois brut, alors que du temps de VW, les gens étaient déjà passés que 6000 euros brut, quoi, par année d'ancienneté. Donc c'est...
D'accord.
Voilà. Donc nous, on dit on veut bien faire les voitures qui restent, mais on aimerait bien savoir quoi du plan social, en fait.
De là, une frustration. Quand quand il y a eu la fermeture avec VW, nous sommes restés là parce que Audi nous a promis du travail et avec toute une autre façon de faire pour laquelle on s'est engagé. Et on était, au début, oui, on était méfiants, mais on s'est rendu compte que ça pouvait fonctionner. Et au bout du compte, quand on voit que 18 ans après, ils sont, qu'il n'y a plus d'avenir, de toute façon, ou que la direction a décidé de fermer et qu'ils n'ont plus aucun respect pour nous, on est un peu écœuré. Hein. C'est. Voilà. Ça, on a gros sur la patate. Hein. C'est...
Quand je vais à Bruxelles, je prends souvent le train et je passe forcément devant Audi Forêt. Et je me suis souvent demandé, travailler chez VW ou chez Audi, c'est quoi en fait ? C'est une ambiance particulière, c'est parce que ça a l'air énorme, ce bazar, et c'est un esprit particulier, c'est fabriqué de belles voitures, c'est difficile, c'est stressant, Michael.
Il y a de tout. Le point de vue physique, c'est vrai que c'est costaud. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et souvent les personnes qui ne se plaisent pas s'en vont assez vite. Mais une fois que tu te plais, que ce soit avec les collègues ou avec le travail, ben c'est du travail que tu fais à vie en fait. C'est une usine d'anciens, comme on l'a déjà dit. Et beaucoup de personnes qui rentrent là, souvent, sont là pour toute la vie. Et c'est peut-être pour ça qu'on est fort déçus en ce moment en fait, justement, que ce soit coupé.
C'est quoi, c'est quoi, c'est la carrière qui est coupée, c'est la vie qui
reprend. Oui, c'est la qui carrière reprend. Coupée, ça, c'est brutal. Hein. Même si, je vais dire, on s'en doutait un peu, mais on ne voulait pas y croire depuis plus ou moins un an, on sent que ça ne fonctionnait plus bien en fait. Qu'il y avait quelque chose qui allait se passer, mais on ne pensait quand même pas à la fermeture. On aurait pensé tourner en une seule équipe jusqu'en 2027 pour avoir un nouveau modèle. Je crois que c'est dans la tête de tout le monde. Mais si la fermeture complète de l'usine, on sait que ça, c'est assez brutal. Mm-hmm. On ne voulait pas y croire en fait, je crois que c'est ça.
C'est ça.
On s'y attendait, mais on ne voulait pas y croire.
Mm-hmm. Olivier ?
Oui, autrement, c'est vrai que l'usine, c'est toute notre vie. Et quand on travaillait, on savait qu'on allait retrouver nos collègues avec qui on passe plus de temps avec nos collègues que notre famille hein, à la maison. Hein. Quand on part à l'usine, c'est vrai que si on n'aime pas son boulot, qu'on part avec des pieds de plomb, on n'y va pas. Mais on savait qu'on allait retrouver nos collègues et avec qui on avait une bonne ambiance et avec qui on faisait du bon travail.
Mmh. Et les collègues, vous n'allez plus les retrouver ?
Non. Une fois que c'est coupé. Très peu de collègues, on va revoir parce que on habite tous dans des régions différentes de Belgique, autant néerlandophones que bruxellois ou wallonie. On a des collègues de toute la Belgique et on s'entendait super bien avec autant de néerlandophones que de bruxellois ou que les wallons. C'est vrai que il y avait pas de problème de langue, Non. On peut avoir des problèmes avec l'un et l'autre comme un peu partout, hein, mais non, on était bien. Et même avec toutes d'autres nouvelles personnes qu'on a rencontrées de la région de Bruxelles. Hein,
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors.
Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Donc les choses ont évolué chez Audi, pas uniquement au niveau technologique, mais peut-être aussi au niveau de l'état d'esprit, Michael, ou pas ?
Oui, tout à fait. Moi, je dis c'est un peu lourd. Hein. C'est l'avenir que va-t-on faire après ? C'est, comme je dis, il n'y a pas que moi non plus. C'est tous les tranches d'âge. Il y en a qui disent, ouais, mais les jeunes, c'est pas grave, vont savoir retrouver du boulot. Ou alors les jeunes, ils disent, les anciens, c'est pas grave, leur maison les payait. Mais je crois que non, il y a tous les âges, on a tous des problèmes, en fait. Comme on dit, j'ai des jeunes qui sont là, qui viennent d'avoir 30 ans, ils viennent d'avoir leur CDI, ils ont connu leur femme à l'usine, donc ils travaillent à deux, la femme est enceinte, en fait, ici, elle devrait bientôt accoucher, ils viennent d'acheter une nouvelle maison avec deux salaires qui viennent de chez Audi, là, ça va être costaud.
Ouais.
Maintenant, moi aussi, j'ai 48 ans, donc il me restait 13 ans à faire, mais bon, qu'est-ce que je vais trouver comme travail maintenant aussi, c'est la grosse question.
Dans la région de Tournai, c'est difficile ?
C'est assez compliqué. Maintenant, je me vois plus encore refaire 2 heures de route tous les jours pour aller travailler. Ça, j'ai plus trop envie non plus.
C'est lourd.
Ouais, très lourd. Bah, notamment si ça fait 27 ans que je travaille, ça fait 27 ans que je fais la route avec Olivier, quoi. Donc, voilà.
Ouais.
On avait l'habitude de faire du covoiturage. Donc, on avait même dit, si Audi avait été repris, mais pour travailler tout seul, chez Audi, ça vaut pas la peine. Le fait de faire le trajet tout seul jusqu'à Audi et perdre 400 euros juste de carburant, c'est pas possible.
Ça vaut pas la peine.
C'est pas la peine.
Non, on se rend compte qu'il vaut mieux faire des sacrifices. Ouais. Financièrement, que de sacrifier pour partir faire nos 8 heures. On est parti 11 heures. Et je pense qu'il y a un moment, si on peut trouver un travail plus près et plus faire autant de routes, c'est pas négligeable.
On a vu arriver les problèmes chez Audi ou pas ?
Ouais.
Un peu à la fois.
Ouais. Comme on disait tantôt, beaucoup de. Le Covid a. Comme partout, a commencé à déclencher ce manque de pièces qui manquaient, où on avait régulièrement du chômage.
Des pièces viennent d'Allemagne
Des pièces qui viennent, des pièces qui viennent de Chine, des pièces qui viennent de... De toute façon, tout ce qui est puce, c'est électronique, hein, comme ils devaient distribuer sur toutes les marques. Il y a des usines qui fabriquent des pièces qui doivent fournir chez BMW, chez Mercedes, chez VW, chez Audi, et une seule usine ne peut pas produire pour toutes les marques. Automatiquement, nous, on s'est ressenti avec un manque de pièces. Puis, comme ça fonctionnait plus très bien, on se demandait si c'était vraiment ça, parce qu'il y a des fois, on avait des pièces, mais qu'on nous mettait quand même au chômage. C'est pour ça qu'on peut se dire que ça ne fonctionnait plus très bien, parce que chaque fois, on avait des excuses différentes. On ne savait plus sur quel pied danser. Il y a un moment, on se dit, c'est à cause du Covid, il manque les pièces. Et puis, on se rendait compte que non, c'était un manque de commandes qui faisait que la production diminuait, mais n'ont jamais été très francs. On n'a jamais eu les vraies raisons. Difficile de savoir.
En fait, on s'en est aperçu assez vite, en fait, parce qu'on a un volume à faire. Donc, mettons, on va dire cette année, il y a 50 000 voitures à faire. Donc, on sait que si on n'a plus les pièces pendant un bout de temps, ben, les voitures, ben, il faudra les rattraper. Donc, on doit faire ou des heures supplémentaires ou des samedis. Et à chaque fois, on nous disait, ouais, il va y avoir au moins 6 samedis à refaire. Et au fur et à mesure qu'on a approché du samedi à faire, ben, le samedi est annulé. Après, on nous proposait du chômage. Donc, on s'est dit, ben oui, le volume donc diminue.
Il y a une grande différence entre le chômage et votre paiement, je dirais, normal.
Ah, au niveau du chômage, on ne ressent pas tellement la différence, mais c'est l'année d'après par rapport aux contributions, du fait qu'on est moins...
Ah, d'accord.
Et c'est quelque part là où on se dit, ouais, on gagnait bien sa vie chez Audi ou chez VW, mais quand on compte avec tout le chômage qu'il y en a, moi j'ai dû rembourser 3000 euros de contribution ici, donc si on déduit ça du salaire...
Ouais.
Je veux dire qu'il n'y a plus tellement une grosse différence par rapport à un salaire par ici. Quand tu regardes les dernières années, du moins.
Sur les dernières années, parce que bon, on est quand même on a quand même un salaire qui n'est pas négligeable. Hein. À l'heure, on est quand même bien payé. Hein.
Ouais.
Plus les primes qu'on reçoit. Et c'est pour ça qu'on est resté là. C'est ça que c'était notre. C'est la carotte qui nous faisait.
Oui, bien sûr. Ouais.
En partie, on s'entend bien avec les collègues, c'est important, mais c'est surtout aussi ce qui rentre dans le portefeuille. Hein, pour, et. Jamais plus on trouvera un salaire, je pense, équivalent dans un autre boulot.
Et la procédure Renault qui a été mise en place, qu'est-ce que vous en pensez, Michael ?
Bah, la première fois, c'était de retrouver un repreneur. Donc là aussi, on en veut assez bien la direction qui était très... pas claire du tout, en fait.
Poudre aux yeux.
Ouais, c'était soi-disant qu'il y avait une vingtaine
de repreneurs.
De repreneurs. Et quand on essaie d'avoir cette équipe, personne ne le sait, que ce soit le gouvernement, que ce soit le syndicat, il n'y a personne qui sait. Donc c'est vraiment Audi qui a géré ça en vase clos, on va dire. Et alors maintenant, au niveau du plan social, on n'est nulle part. Quoi. On ne sait pas de quoi on va partir.
Donc fin février, vous ne savez pas?
Non, si, on sait qu'on sera dehors, on sait qu'on aura quelque chose, mais c'est point d'interrogation surtout.
Ils sont encore en réunion hein, pour l'instant, ouais. Mais...
Il y a la pression, la direction met encore de la pression en disant on a des voitures absolument à faire encore, donc vous devez les faire, sinon bah, nous on ne vous donne pas de plan social correct, et nous on dit non, c'est l'inverse, nous on peut nous faire confiance, donc nous on veut un bon plan social et là on fera les voitures à ce moment-là.
Quelles sont les relations justement avec le patronat, Olivier ?
Je pense que c'est plutôt une question pour un syndicat à demander, parce que on n'a pas les contacts directs. Je pense que les réunions se font, mais ça, c'est difficile à dire. Je ne suis pas directement dans... Allez, ça, c'est plutôt... c'est le syndicat, maintenant, qui a le contact directement.
Vous avez des relations avec les syndicats, Michael ?
Oh, oui, bah, souvent, même le disent, quoi. Il y a un manque de dialogue, en fait. Il y a un manque de dialogue entre la direction et le syndicat. Il y a même un moment, moi j'ai eu la chance de faire une petite réunion avec la direction directement, parce que justement on demandait des explications et des comptes, et même quand on est devant la direction, on pose des questions, mais ça, ils ne répondent pas aux questions, en fait, tout est détourné, ça tourne en rond.
Même qu'ils nous ont mis une fois en doute par rapport à ce qu'un délégué avait raconté, la fermeture, le patron dit on n'a jamais dit qu'on allait fermer.
On n'a jamais parlé de fermeture.
Il y a un moment, ils sortent des choses où à un moment on se remet en question, on se dit attends, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on a bien compris. Ils jouent à un jeu psychologique. Ouais. Voilà. Je pense que c'est un. Ils poussent, je pense qu'ils poussent les ouvriers à la faute. Ça, c'est un des ressentis. Ils poussent vraiment à ce qu'on dise stop, on arrête. On veut plus travailler. Et pourtant, nous, on est là toujours à vouloir travailler.
Vous sentez soutenu ? Vous sentez soutenu par les médias, le public, par les collègues ?
Soutenu, oui, un petit peu au début, mais bon, les gens oublient vite. Hein. Les médias nous disent ce qu'ils veulent aussi. De toute façon, tout ce qui passe chez les médias, c'est jamais la réalité.
C'est compliqué.
C'est compliqué.
Je crois que les médias ont fait plus de mal que de bien.
C'est vrai ?
Oui, qu'on avait entendu notamment la marque NIO, donc chinoise, qui aurait été repreneur. Ça a duré ainsi pendant des semaines, puis il y a eu un démenti.
Oui.
Donc
oui.
C'était plusieurs fois ainsi, en disant « il y aurait un repreneur », et puis non, il n'y a plus rien. Donc,
mais on savait que...
personne expert, mais après, tu retombes à chaque fois plus bas, en fait.
Okay. Mais on se rendait compte, de toute façon, parce que quand les gens extérieurs nous disaient « il y a une usine chinoise qui va venir », on disait « mais non ». C'est ce que les médias racontent. Pour nous, c'était clair, on savait qu'il n'allait pas y avoir une usine
chinoise.
Non, c'est logique, on se rend compte que de toute façon, même si une usine chinoise, entre guillemets, était venue, nous, c'était fini.
Lève-toi, foule, ne regarde pas le monde qui s'écroule, sans rien faire en pensant qu'à ta gueule, sans bouger, sans t'armer de conscience. Ne laisse pas s'installer la violence, le rejet de l'autre et l'ignorance. Que nos voix ensemble se soulèvent et nos mains unies enfin nous relèvent. Enfin nous relèvent. Lève-toi, foule, montre que dans ton sang ce qui coule sont des fleuves de temps, de batailles, de libertés arrachées pour que brille nos visages ensemble, nos pupilles, nos rêves, nos idées, nos idylles. Les larmes sur nos joues sont du sel. Marchons sous le même soleil, la même nuit, la même lune. Lève-toi, fils, si ici nous ne sommes que poussière, toi et moi.
Ok, on va passer à l'après quand même. Michael, tu as un projet pour la suite?
Bon, j'ai déjà commencé à regarder un petit peu au niveau de recherche d'emploi. J'ai un peu pris l'avance, mais c'est compliqué. C'est très compliqué parce que, comme j'ai dit, c'est pas quand tu passes 27 ans ou 20 ans dans une usine de production.
Psychologiquement, c'est compliqué.
Psychologiquement, non, pas spécialement. Parce que j'ai dit, bah, il faut travailler de toute façon, ça c'est ma mentalité. Mais physiquement, ben, y a des séquelles. Hein. Quand tu travailles 27 ans dans une usine de production, y a beaucoup de gens ici en fin de carrière qui sont soit en mi-temps médical, parce qu'ils ne peuvent plus, soit les coudes, les poignets. Ben, moi, c'est le dos qui a des fragilités, notamment les cervicales et au niveau des lombaires. Mais si maintenant, j'ai des connaissances en mécanique automobile, donc je pourrais très bien travailler dans un garage, ben, physiquement, je ne saurais plus. je travaille déjà à la maison après une demi-heure, mais si je regarde dans un moteur, après, ben, j'ai du mal pour me relever, mal dans les jambes.
Et c'est quoi, c'était le travail que tu effectuais chez Audi?
Ouais, ben, c'est une usure, hein. C'est du travail répétitif, donc c'est physique, donc forcément, celui qui met des bas de marche et qui tape pendant, je vais dire, le temps de durée de vie d'un modèle qui est plus ou moins 6 ans, qui met des bas de marche pendant 6 ans, ben, forcément, ses poignets sont foutus, le coude est foutu. Donc quand tu restes chez Audi, ben, on te trouve une autre place ailleurs, donc tu sais sortir de la chaîne, ou alors on te change de poste là où tu dois plus utiliser, moins sollicité, je veux dire, ton coude ou ton poignet.
Ouais.
Bah donc maintenant, forcément, quand tu sors de l'usine et que tu dis déjà, bah ouais, moi j'ai des problèmes à ce niveau-là, ouais, donc ouais, je dois faire attention, ouais, ça met des contraintes pour trouver un nouveau job, en fait.
Ok. Olivier, tu as des projets professionnels ou autres?
Non. Moi, à l'âge que j'ai, des autres projets, je n'en ai plus. Je vais voir un peu comment on se présente et ce qu'on propose en plan de carrière. Je ne dis pas que je ne vais plus travailler, mais en tout cas, une chose est certaine. Je pense, je ne voudrais plus partir sur Bruxelles et faire les postes. Plus de routes en tout cas. Les postes à la rigueur, mais plus faire des routes qu'on a fait. Et puis, bon, vieillissant, je pense que on en a un petit peu, on est un peu fatigué.
Bah, il faut se réadapter en plus, et c'est pas facile. Plus tu es vieux, plus ça donnera du mal à se réadapter à un rythme et à un travail, quoi. Ça, enfin, du moins physique.
Bah, je pense qu'après 36 ans, un travail en usine et le travail qu'on fait, c'est pas le travail qu'on peut retrouver ailleurs. Bon, moi j'ai toujours fait de la mécanique carrosserie étant jeune. Chez Audi, bah, je fais les réparations des voitures, mais c'est pas le même travail que si tu travailles dans une carrosserie. C'est un travail d'usine sur des voitures neuves, n'a rien à voir avec une réparation dans une carrosserie. Je n'ai pas de compétences pour travailler ailleurs, à part dans une usine comme on faisait.
D'accord.
On connaît très bien notre boulot et on le fait très bien, mais ce travail-là est spécifique à l'usine.
D'accord. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes, hein, ceux qui ont 22, 23, 24, 25 ans, qui commencent dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie, je dirais, manuelle ou intellectuelle, ou dans les réseaux, etc. Michael ?
Bah, je crois que ça commence déjà à l'école, hein, essayer d'avoir un maximum de diplômes, mais simplement juste le CESS. Parce que j'ai déjà, comme je dis, je regardais les recherches d'emploi, ou alors même pour des formations, c'est dingue. À chaque fois, le CESS, donc, qui est le certificat d'études supérieures, donc en 6e technique, je vais dire, ça ouvre des portes de dingue. Celui qui n'a pas ça, bah, y a plein de portes qui se ferment. Donc je crois que c'est déjà aller faire quelque chose qu'ils aiment bien et vraiment bosser à fond à l'école, même si c'est pas Guillaume et tout se passait par là, mais je crois que c'est important, surtout maintenant.
Ok. Olivier ?
Ben moi je pense que déjà peut-être pas aller trop loin chez soi pour aller travailler, parce que les routes c'est quand même épuisant. Quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte, mais voilà, nous à l'époque, ben, on a été financièrement, le salaire nous menait là-bas à Bruxelles et ça c'était chouette, mais... Voilà. Les postes, ça esquinte beaucoup. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Il faut travailler, mais voilà. Maintenant, c'est mon ressenti avec l'âge que j'ai. Hein. C'est vrai que... Mais les routes, ça, sur la route, c'est surtout ça qui est le plus épuisant. C'est 2 heures de perdu sur une journée.
On n'y pense pas quand on a 25 ans.
Non, on se lance, on se dit, tiens, on a un beau salaire. Et puis, après, on est pris dans un engrenage. Cet engrenage financier, et puis attention, je ne regrette pas mon parcours, hein, je l'ai fait, je suis content, je ne dis pas que je recommencerai, mais ce qui a été fait, j'ai pas de regrets, j'ai à ce niveau-là, avec Volkswagen et tout ça, jusque-là, ça a été chouette. J'ai vraiment les débuts d'Audi, j'ai pas de regrets. Évidemment, maintenant, avec les événements, ce qui arrive, quand ça nous tombe dessus, on a une petite rancœur. On a une rancœur sur ce qui se passe, mais voilà. Et autrement, ben, j'ai toujours bien aimé mon travail. J'ai toujours bien aimé aller travailler. Je peux pas dire le contraire. Bon, des fois, comme tout le monde, on part des fois avec des pieds de plomb, mais j'ai toujours bien aimé j'ai toujours bien aimé.
Ok, Michael, des regrets, des pieds de plomb maintenant ou après ou...
Maintenant, oui, bah, c'est un problème de motivation. Comme je disais tantôt, c'est d'être écœuré, en fait. On donne, c'est pas juste, allez, on n'y va pas juste là-bas pour l'argent. On donne sa santé, on donne énormément de temps. On se donne à fond pour dire d'avoir un outil et de l'emploi pour les jeunes qui arrivent après nous aussi et tout ça. Mais il n'y a plus rien derrière. Donc tu dis, pourquoi tu vas travailler ici juste pour avoir l'argent, en fait? Moi, j'ai envie d'aller jusqu'en février, d'aller jusqu'au bout, juste pour avoir mon salaire, et puis c'est tout, en fait.
Ok. Un grand merci à vous deux. Un grand merci pour le témoignage. Je pense que ça fera réfléchir plus d'un de nos auditeurs. Permettez-moi quand même de vous souhaiter une bonne continuation et de quand même pouvoir continuer à faire des choses que vous aimez. Merci Mickaël, merci Olivier.
Merci Christian.
Vous avez écouté les dossiers de LSD, les Soyeux du dimanche. Merci de votre écoute.
Et donc voilà, le dossier que nous a préparé Luc se termine maintenant. Merci, pardon, non Luc, Christian. Désolé, oui. Merci Christian pour ce dossier. C'était super intéressant. Merci encore à Mickaël et Olivier d'avoir accepté du coup cette interview. On en a appris beaucoup plus sur leur point de vue, ce qui se passait de leur côté. Mm-hmm. Voilà, je sais pas si...
Oui, c'est vrai que c'est pas facile pour eux de vivre ça. Normalement, le travail élève l'homme. Et là, avec cette démotivation, bah, forcément, même s'ils ont un chouette vécu chez Audi et Volkswagen avant, avec leur nombre d'années, ils ont connu beaucoup de choses. Tout ce vécu est balayé comme ça. Et là, actuellement, ils ne peuvent plus, évidemment, avoir cette idée du travail qui élève l'homme. Hein. Mmh.
Ben là, on a des points de vue très, très humains et peut-être un peu moins politiques, mais on pourra avoir une autre idée de la chose, puisque Luc nous a préparé un petit coup de gueule. On pourrait aussi amener des manières de vivre l'entreprise un peu différentes. Moi, je pensais à Isabelle Ferraras, qui est sociologue et qui a fait des études autour d'une autre manière de vivre le lien entre patron et ouvrier, et où elle fait une proposition d'intégrer dans les discussions du conseil d'administration, où on sait que ce sont les actionnaires qui sont les principaux détenteurs de pouvoir, de les confronter à la réalité du vécu des travailleurs. Et ça donne tout à fait un autre regard sur l'entreprise, parce que les gens ne voient que les billets qui peuvent être produits par la société dans laquelle ils investissent. Là, ils se rendent compte que derrière une usine, il y a des hommes et qu'ils ont parfois des revendications aussi et des manières de pouvoir défendre leur travail et de revendiquer d'être considérés. Donc voilà, c'était une petite... je trouve qu'elle fait un très chouette travail.
Oui, oui.
Voilà, ce serait intéressant de prolonger la discussion autour du monde du travail, de comment les choses s'organisent aujourd'hui autour du marchand, puisque Audi, c'est quand même la grosse société capitaliste. Et ceux qui produisent, c'est aussi à l'image d'un monde capitaliste, parce qu'on sait que les voitures qui sont produites à Audi, ben, ce n'est pas nous qui pouvons nous les acheter. Hein. C'est soit des voitures de société, soit vraiment des gens qui ont les moyens de pouvoir... Luc, tu donnais un chiffre par rapport aux voitures produites à l'achat. Combien coûte une voiture produite chez Audi aujourd'hui ?
Mais c'était un peu ça leur problème. C'était des véhicules très haut de gamme, autour de 40-50 000. Ce qui, évidemment, ne peut pas faire concurrence aux voitures électriques du marché asiatique low cost qui arrive en Europe. Quoi.
Mmh. Certainement, oui.
Eh bien, pour... digérer tout ça, on va écouter une chanson de Radiohead, No Surprises, qui, dans ce titre, c'est un groupe britannique, Radiohead, et ils ont écrit ce titre en 1977, et en fait, déjà à l'époque, ils traitent de la complexité de la vie moderne et d'un désir d'accéder à une vie plus simple et plus tranquille.
For
Donc voilà, c'était Radiohead. Vous êtes sur Radio Air Libre, 97.7 fréquence. La fréquence 97.7, nous sommes également sur DAB+.
Merci Olivia. Et bien maintenant, comme on l'a déjà un peu annoncé, en contrepoint du dossier Audi, il y a Luc qui bouillait et qui avait envie d'élargir le propos et de recadrer en fait ce qui se passe chez Audi actuellement avec une manière dont la société capitaliste fonctionne, et donc il va nous partager tout ça.
Et maintenant notre séquence, le coup de gueule du mois. Janvier 2025. Aujourd'hui, c'est 3000 travailleurs qui sont dégagés à l'usine Audi de Forêt. Et aussi, plus ou moins 4000 travailleurs sous-traitants. Ainsi, on a décidé le propriétaire VOE, premier groupe mondial. Et pourquoi ces licenciements? Pourquoi cette fermeture? Il paraît qu'une erreur stratégique a été de confier au site de Forêt un seul véhicule à produire et de très haute gamme. Un modèle qui ne se vend pratiquement pas vu la crise, et qui ne peut rien face aux véhicules électriques d'importation asiatique. Il reste que c'est une usine au top, des travailleurs qualifiés et des bons salaires. En 2021, Caterpillar fermait son usine de Charleroi, ouverte en 1995. Là aussi, une usine au top, des travailleurs qualifiés et des salaires au-dessus de la moyenne. 2200 travailleurs sur le carreau, sans parler des sous-traitants. Sa rentabilité n'est plus suffisante, c'est donc on va fabriquer moins cher ailleurs. Et là aussi, on parlait de manque de vision commerciale. En effet, une production de très haute technologie qui ne correspondrait pas à ce que la Chine produit, soit des machines basiques, beaucoup moins chères donc, est destinée aux pays hors Europe qui ne connaissent pas les normes de sécurité high-tech de chez nous. Dans ces entreprises high-tech, tout est fait pour motiver les troupes, tout est fait pour que l'ouvrier se considère dans son entreprise. C'est presque l'entente cordiale. Mais juste en façade alors. Car à chaque fois que son intérêt change, à chaque fois que les données internationales changent, le propriétaire, les actionnaires, n'hésite pas à informer les ouvriers à la toute dernière minute et bloque rapidement les accès à l'usine afin de protéger et d'empêcher une éventuelle prise de trésor de guerre par les travailleurs. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Le monde ouvrier ne veut pas y croire, même si on s'en doutait un peu, même si on avait bien vu venir certaines choses bizarres. Et puis voilà le couperet qui tombe. Et se met alors en place à chaque fois le même bras de fer. La direction envoie son pitbull pour procéder à la liquidation avec des instructions claires sur ce qu'il peut lâcher et jusqu'où s'arrêter. Et donc progressivement, on arrive toujours aux mêmes questions. À combien se montent les miettes du gâteau? Combien on sera pour se les partager? Et alors chaque ouvrier, chaque employé se fait son petit calcul de survie. Je dois encore payer les études des enfants. Est-ce que la maison est totalement payée? Etc. Catastrophe familiale en vue. Mais cela reste néanmoins un moment délicat pour la direction, qui a aussi un peu peur de perdre des plumes et le trésor de guerre, sur lequel syndicats et ouvriers un peu plus révolutionnaires auraient pu mettre la main. Et à chaque fois, le patronat agite la floche des primes comme au manège pour enfants. À chaque fois, la direction met des indemnités dans la balance, de manière à gentiment récupérer, dans ce cas, les clés des 200 voitures prêtes à être vendues. Bien sûr, vivre cette situation est bien entendu, on est bien d'accord, une tragédie personnelle et familiale, et on est de tout cœur avec les travailleurs. Pourtant, l'industrie pleure encore et toujours, depuis des décennies, à la recherche de techniciens et ingénieurs, et cela dans tous les domaines, mais peut-être pas au même tarif, au même salaire, il est vrai. Début des années 80, un des derniers témoins de l'Empire du textile ferme sa dernière usine à Moucron. Et la cellule de reconversion replace 80% du personnel. Mais bien sûr, une petite entreprise ou PME n'est évidemment pas un fleuron industriel international avec les mêmes capacités financières.
Il y en a qui s'emmerdent avec du pognon, hein. Moi, j'en ai pas de pognon, mais je me suis bien emmerdé. Ben, c'est-à-dire, j'ai trouvé une combine, maintenant j'achète tout à crédit. Alors, c'est retenu sur ma paye. Il y a des fins de mois, tellement je touche peu, je sais même pas si je bosse. Par exemple, là, je viens de m'acheter une maison de campagne. Bon, alors, j'ai acheté à crédit, enfin, à côté de crédit, pas loin. Alors, moi, déjà, dans la vie peinard, j'ai acheté une maison Merlin. Vous voyez? Maison Merlin, cage à lapin. Bon. J'ai pris crédit personnalisé à long terme. Parce que chez Merlin, c'est le crédit qui est cher, c'est pas la maison. Hein. Ah ben quand on voit la maison, on dit c'est pas vrai, ça coûte pas ce prix-là, hein. Ah ben non vieux, c'est le crédit qui est cher. Oh, tu m'as fait peur. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on a fini de payer le crédit, si on pouvait le vendre, hein, on serait plus de pognon qu'en vendant la maison, hein. Alors, j'ai pris crédit personnalisé, c'est chacun sien, à long terme. C'est-à-dire, c'est un prêt de loin. C'est-à-dire, moins tu peux payer, plus tu payes. C'est la formule Merlin, c'est pendant le crédit, tu répares ce qui s'écroule, et au bout de 15 ans, les ruines sont à toi. Bon.
On écoute un extrait de Coluche, le délégué syndical, version raccourcie, la suite suivra un peu plus tard. Au jeu du grand monopole mondial, il faut forcément beaucoup de perdants. Jusqu'à la guerre mondiale, la seconde, la situation était plus ou moins claire. Les régions industrielles et riches étaient situées dans nos pays et on puisait les autres matières premières dont nous sommes dépourvus dans ce qu'on appelait le tiers-monde. Nos pays mettaient au point l'automobile et le tiers-monde nous fournirait caoutchouc pour les pneus et carburant pour le moteur. Tout avait l'air de bien fonctionner comme ça dans nos pays et on ne voyait pas pourquoi cela devrait changer. C'était fait pour durer. Sauf que rien ne dure, et certainement pas en matière politique et économique. Le système capitaliste dégoulinant de tous côtés n'a pas de nation, pas de frontières, et réussit à nous faire croire que c'est quand même le top du top de pouvoir acheter un truc à 5 euros au fin fond de la Chine et d'être livré en quelques jours. Le patronat, les banques, détiennent les moyens de diffusion, et ce n'est pas Elon Musk qui va nous dire le contraire. Le contrôle des esprits dépasse de loin ce que l'on pouvait imaginer dans les années 80. Le mot autogestion est-il encore simplement dans le dictionnaire d'ailleurs ? Est-il encore possible de parler de produire ce qui est nécessaire, et ce dans un système socialiste, sans paraître issu de la préhistoire ?
Chers balayeurs, grâce au syndicat et par le truchement du dialogue, tu seras l'égal du patron. Dans le dialogue, hein. Parce que dans le détail, tu seras payé moins, puis c'est toi qui balayeras la cour. Ah bon, je perds pas mon boulot? Non, non.
Ah ben, ça va.
Alors, je suis très bien vu par le patron. Je suis reçu à la campagne, à la chasse. On était là comme ça, et qu'est-ce qu'il me glisse dans la conversation? Il me dit, alors quand est-ce qu'on arrête la grève? Ben, j'ai dit, mais c'est quand vous voulez, hein. Eh, c'est où le patron, hein? Ça dépend du stock. Parce que moi, je travaille dans une usine où que la grève dépend directement du stock. L'État, le patron, le syndicat, l'ouvrier, la police. Quand il y a trop d'ouvriers dans la rue qui gueulent pour trouver du boulot, on leur envoie les polices. Comme ça, ça fait toujours du boulot aux flics. Parce que les enfants, quand ils veulent du boulot, on leur tape sur la gueule maintenant. On veut bosser, salaud, là! Bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. Bon, alors, quand il y a trop de mecs dans la rue, l'État dit au patron, engagez-moi donc des chômeurs qui font des ordres. Alors l'autre, il engage des chômeurs, non? Puis il remplit le stock, puisque déjà, il n'en avait pas besoin des chômeurs qu'il y avait là dehors. Puisqu'il n'arrivait pas à vendre déjà avant. Alors le stock est plein. Quand le stock est plein, qu'est-ce qu'il dit le patron? Il se tourne vers son partenaire social, qui est le syndicat. Suivez, prenez des notes, je ne vais pas répéter. Et puis il dit, voilà mon gars, on va être obligé de débaucher une certaine catégorie de personnel. C'est la grève, mais ils viennent d'embaucher. Ben, ils débauchent, ah bon. Salaud, le patron, engagez nos caméras de... Alors, comprenez, parce que la grève dure des fois 3 semaines, des fois même 3 semaines, voire même... 3 semaines. Alors, pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'il fait le patron? Il vend ce qu'il a dans son stock, puisqu'on a arrêté de fabriquer. Lui, il continue à vendre. Alors, au bout d'un moment, le stock est vide. Le patron, il dit à ce moment-là au syndicat, vous avez gagné, je rembourse tout le monde. Et les ouvriers retournent bosser en chantant, on a gagné, on a gagné, à part les 3 semaines qu'on a perdu. Évidemment, quand ils sont embauchés, ils sont augmentés. Et d'ailleurs, c'est là qu'est le problème. Parce que le patron, il me l'a dit, il m'a dit, vous comprenez, le problème, il est simple. Les ouvriers, ils demandent ça. Bon, on leur donne ça. Bon, mais ils le prennent.
En 1985, une charge explosive détruit partiellement les archives de l'OTAN au cœur de Bruxelles. L'action est revendiquée et dénonce la présence d'un symposium de l'OTAN à Bruxelles, dont rien n'avait transpiré au JT avant cette action. Ce symposium, c'est-à-dire une réunion internationale, dans ce cas, regroupant les milieux politiques et industriels proches de l'OTAN liés à l'armement. Bref, un genre de café philo à 200, dont le but est de discuter, de préparer, d'établir des stratégies pour les années à venir dans le cadre de la défense des pays de l'Atlantique Nord, et donc de décider de la production civile et militaire liée à l'armement. Dans ce genre de réunion, on décide quel type de recherche ou quel secteur industriel seront abandonnés ou au contraire développés. Les syndicats et autres fouteurs de merde ne sont évidemment pas convoqués. Le JT n'était pas informé. Le grand public ou les syndicats ne sont évidemment pas informés de ce qui est décidé. Et c'est des années, voire des décennies plus tard, que les conséquences de ces choix éclateront dans les médias et seront alors visibles par le monde du travail. Je reviens maintenant à Audi. Difficile pour moi de croire que la faible vente de voitures high-tech à Forêt explique cette fermeture surprise. Difficile de croire que VW n'a pas d'autres plans progressivement mis en place dans d'autres pays. Ne sommes-nous pas tout simplement au bout d'un long processus mis en place et décidé quelques années plus tôt? Difficile de se dire qu'il n'y aurait pas d'alternative à cette société capitaliste de merde, qu'il n'y aurait plus de syndicats de lutte, que les syndicats ne seraient plus qu'une assurance pour un bon salaire. Et pourquoi pas 2000 ouvriers qui bloqueraient le ring de Bruxelles à la hauteur du Heysel? Ah oui, j'oubliais, bon salon de l'auto.
Dans la cour de la grande usine, les travailleurs sont rassemblés. Ça fait 8 mois qu'on leur serine les mêmes promesses et les mêmes regrets. On voudrait les voir fatalistes, baisser les bras et fermer les yeux, subir les lois capitalistes comme si elles venaient du bon Dieu. Tous en rang vers le bureau de pointage, fermer sa gueule et surtout rester sage. Mais à la fin du compte, on les traite de terroristes, ceux qui refusent la honte et veulent que demain existe. Ceux de Clavec apprennent aux ouvriers la fierté de dire non aux lois du marché, à l'Europe du pognon, à l'Europe des nantis, mais à l'Europe des hommes. Ceux de Clavec disent oui.
C'était le coup de gueule du mois.
Alors Luc, tu parles de l'OTAN et des milieux, enfin dans les années 80, donc l'OTAN, tu expliques que c'est une discussion entre des décideurs politiques et industriels et qu'ils veulent décider de ce qui va se passer dans les productions, dans la production de, des entreprises du pays. Et puis tu dis que même le JT n'est pas informé, les syndicats ne sont pas invités, etc., etc. Et que voilà, plus tard, on voit les conséquences de ces choix. Moi, je voudrais savoir le rapport que tu établis entre, par exemple, ces réunions, ces décisions qui sont prises lors de ces réunions, et notamment Audi ou d'autres, ou même Caterpillar autrefois, etc. D'autres décisions comme ça dans les productions.
Oui, en fait, c'est ça. Je pense qu'effectivement, entre la soupe qu'on nous sert dans les médias, papier ou web, ou tout ce qu'on veut, et les instants où des décisions fondamentales sont prises, s'écoule plus que quelques semaines, quelques mois, où tout d'un coup, il y aurait 3 ingénieurs commerciaux qui disent « aïe, 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 en se grattant les cheveux, ben, elle va pas vendre cette Audi, on saura pas la vendre, hein. Bon, allez, on va aller voir ailleurs, on va aller trouver une autre solution ». Je pense pas que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que quand on est actionnaire et qu'on a des usines qui valent des milliards, on voit plus long terme que ça. Et que donc, ce qu'on nous sert là de dire, ben désolé les gars, on va fermer parce qu'on en a pas vendu assez. Si on avait réfléchi un peu plus tôt, on aurait peut-être bien vu finalement que vendre une bagnole à 50 000 euros, alors que les Chinois ils arrivent avec des voitures électriques à 20 000 euros, ce qui, entre guillemets, nous rappelle quand même un petit peu les années 70-80, quand on voyait arriver les premières voitures asiatiques. Le monde industriel, à l'époque, ne voyait pas de problème. Hein. Toyota venait avec sa petite Starlet et tout ça, quoi. C'était des voitures low cost, bas de gamme. On voyait pas où il y avait un danger. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas de parler ici d'avoir des meilleurs ingénieurs commerciaux dans ce système capitaliste, c'est de se dire, finalement, quand il y a une usine qui ferme, on lourde les employés, les ouvriers. Mais tous ces gens qui participent à ce processus de décision qui est déjà en place depuis plusieurs années, probablement, il y a peut-être déjà quelque part une usine au Mexique ou ailleurs qui va reprendre le même modèle, mais version low cost, avec manœuvre réduite et tout ce qu'on veut. Eh bien, tout ça, je pense que c'était déjà en place et que ce qu'on nous sert là, c'est juste la partie que tout d'un coup on placarde dans la rue pour expliquer aux gens que ça va fermer, démerdez-vous quoi, en gros quoi.
Mais pour moi, c'est pas pour autant que la production se passe au Brésil ou au Mexique que les actionnaires ne vont pas gagner autant. Je crois qu'il y a toujours cette course pour les actionnaires. C'est pour ça que je parlais d'Isabelle Ferraras tout à l'heure. C'est que c'est là qu'il faut casser ce système où les profits vont toujours eux-mêmes, quoi.
Ce qui est logique dans un système capitaliste, hein, sinon on parlerait d'autogestion ou de socialisme. Hein. Mais enfin, effectivement, c'est ça. Je pense que il n'y a pas d'effet de surprise, si ce n'est pour nous autres spectateurs et ouvriers de Audi. Je pense qu'il y a effectivement des gens qui sont déjà bien informés dans les milieux décisionnels et que ces décisions remontent à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et je parlais de ce symposium de l'OTAN des années 80 parce qu'à l'époque, ça avait fait l'effet d'une bombe, si je peux me permettre. Et je me souviens très bien d'avoir vu Jespers qui présentait le JT dire d'une manière assez agacée, c'est quand même incroyable que ce symposium qui se tient à quelques kilomètres de la RTB nous soit inconnu à nous journalistes. Qu'on n'a aucune séquence là-dessus, aucune information là-dessus. Et donc, je ne suis pas du tout inquiet pour les actionnaires. Hein. C'est certain que l'actionnariat se place au niveau mondial et qu'eux déplacent leurs pions, investissent comme ils veulent, de manière à conserver une rentabilité. On appauvrit nos pays, donc peut-être qu'il y aura plus de clients potentiellement plus riches progressivement dans tel ou tel autre continent. Et donc, le tout, c'est d'être présent au bon moment, avec le bon produit. Je pense que c'est ça, en tout cas, que ce que nous avait appris ce symposium de l'OTAN, qui a lieu d'ailleurs tous les 2-3 ans, encore maintenant, je pense d'ailleurs. Et donc ce système-là, qui touche là, je parlais du militaro-industriel, puisque je fais référence à ces années 80, mais ça me paraît évident qu'on ne lourde pas une usine comme Caterpillar ou Audi, ou peut-être bientôt la FN, enfin, pour l'instant ça tourne très très bien là-bas, et je ne pense pas qu'on lourde ça comme ça sur un coup de tête en 4 mois. Quoi. Je veux dire, c'est des décisions qui se prennent sur des années, avec des plans, des mises en place de plans, tout un système comme ça, auquel on n'a pas d'informations pour l'instant. On aura ces informations, mais dans une dizaine d'années. Quoi.
Bah, c'est un peu désolant, je trouve, d'entendre... Bah, qu'on n'est rien, quoi.
Oui, cette place de l'humain, là, qui est encore une fois absente. Ouais. Hein.
Et donc, heureusement qu'il y a encore des gens qui se battent. Et... On va écouter Renaud, si c'est possible.
Oui, si on l'entend. Hein.
Si on l'entend.
On va voir.
Donc, c'est une chanson de Renaud qui est parue en 1980 dans l'album Marche à l'ombre, qu'il dédie à un gangster célèbre à cette époque, Jacques Mesrine. Et donc, il écrit une chanson quand il va visiter son frère aîné qui habite à HLM dans le 13e arrondissement de Paris. Et cette chanson, ça s'appelle « Dans mon HLM » de Renaud.
Mon HLM, c'est la montre du 8e, le HLM. Au 3e, dans mon HLM, il y a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Avoriaz. Le mois de juillet au club, comme toutes les décolorées, elle a sa mini couvert, elle allume tout le quartier, quand elle sort son cocker, au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas d'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, elle l'a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle lit, putain ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du 8e, le HLM. Au 4e, dans mon HLM, il y a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Depuis sa pétition, il y a 3 ans pour le Chili. Tout l'immeuble soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que mort au con, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué, c'est pour dire si j'ai raison. Putain ce qu'il est blême, mon HLM, la montre du 8e, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM. Un nouveau romantique, un ancien combattant, un loubar et un fric qui se balade en survêtement. Il fait chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, c'est vachement enrichissant. Quand j'en ai marre ces braves gens, je fais un saut au huitième pour construire un moment avec ma copine germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant. C'est vous dire si on rêve. Putain, style et blême, mon HLM et la montre du huitième. Le HLM, putain, style et blême, mon HLM et la montre du huitième. Le HLM, putain, style et blême, mon HLM.
Voilà, ben on arrive tout doucement au terme de notre émission, Martine, Olivia.
Oui. C'est la fin.
Oui, voilà.
Ça passe vite.
Eh bien, on espère que vous allez tous passer un excellent dimanche avec les quelques rayons de soleil là, qu'on a sous les yeux. Hein. Pas de vitamine D artificielle aujourd'hui. Ouf.
Ça fait du bien.
Ouais.
Et donc, voilà. On annonce déjà la prochaine émission des Soyeux du Dimanche. Ce sera le dimanche 23 février.
Et alors, on a plusieurs possibilités pour le dossier, mais ça sera une surprise parce qu'on n'est pas encore décidé.
Et on n'est pas obligé non plus d'avoir un dossier. On peut avoir nos petites chroniques tout habituelles ou des...
Ou un petit coup de gueule sympathique.
ou un jeu qu'Olivia pourrait nous concocter.
Tout à fait.
Ou... La série Rue McCartney qui revient.
Ah, qui sait.
Le retour.
Beaucoup de possibilités en tout cas. Beaucoup de choix. On
voilà.
Verra bien.
Il y a de quoi faire.
Et on vous remercie de votre écoute.
Bon dimanche. Ouais.
Bon dimanche.
Les Soyeux du Dimanche. Les Soyeux du Dimanche. Sur Radio Air Libre, 87.7 MHz. Chaque quatrième dimanche du mois à partir de 11h.
Et votre programme, c'est de faire chier le monde.
Non, c'est de titiller plutôt.